Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Dans notre chemin à travers le catéchisme, nous voilà à un article qui est éminemment important, l'article 2, donc dans cette partie sur la profession de foi, la profession de la foi. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Là, cet article 2 met en perspective les noms, les titres ou les noms qui sont donnés à celui qui est le Fils de Dieu pour nous. Celui, le Fils du Très-Haut, tel que le récit de l'Annonciation le présente à la Vierge Marie. Et d'ailleurs, l'article 430 qui commence le passage 430, paragraphe 430 qui commence cet article 2,
évoque
l'Annonciation. Donc, il y a un certain nombre de questions me viennent comme ça. D'abord, il est assez amusant de voir que l'endroit où l'on nous dit qu'il s'appellera Jésus, ce fils de Marie et de Joseph, c'est justement de l'Annonciation à Joseph, Joseph n'étant pas le père biologique, mais celui qui va recevoir le Fils de Dieu, le fils de son épouse après. Donc là, il reçoit le nom de Jésus. C'est assez amusant d'ailleurs, enfin amusant, le mot n'est peut-être pas là, mais de voir que dans cette annonciation à Joseph, il est dit que cela se produit pour que s'accomplisse, une citation qu'on a dans le prophète Isaïe, il s'appellera Emmanuel.
Oui,
manifestement, il ne portera pas le nom d'Emmanuel, mais il est vraiment l'Emmanuel en réalité. Puisqu'à la fin de l'évangile, selon saint Matthieu, on retrouve Jésus qui va dire à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », Emmanuel signifiant « être avec vous ». Une autre question, je les lance comme ça. On trouvera un petit peu plus loin dans nos paragraphes de l'article 2, après la résurrection, Pierre va annoncer devant le peuple de Dieu que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 36. Cette fois-ci, quelque chose qui peut un peu surprendre, c'est de dire, Jésus, il n'était pas le Fils de Dieu avant, il a été fait à un moment, ce qui est évidemment contraire à notre foi. Donc c'est intéressant, je pense, cet article 2, de bien regarder de plus près ces noms et ces titres, Jésus, Christ, le Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, Seigneur, titre qu'on lui attribue aussi, c'est ainsi que l'article 2 nous fait voyager. Eh bien, allons-y.
Oui, eh bien, la première question sur l'annonce faite à Joseph, le titre d'Emmanuel rappelle la divinité de Jésus, alors que le nom qui est compris comme étant celui qui va être donné concrètement à l'enfant Jésus dans sa nature humaine, c'est Jésus. Je crois qu'il y a dans l'Écriture déjà la compréhension de ce que le deuxième concile de Constantinople appellera que en Jésus, l'existence d'une personne composée. Il est composé de deux natures, la nature divine et la nature humaine. Et quand je dis Emmanuel, Dieu avec nous, évidemment, je suis, en regardant toujours l'unique personne de Jésus-Christ, je regarde sa divinité. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand je regarde Jésus, à ce moment-là, je vois le nom qu'on lui donnait, qui était un nom courant en Israël. Il y a des noms dans l'Ancien Testament qui sont déjà tout à fait identiques. Ben Sirach s'appelait Jésus. Vous avez Yehoshua, qui est le nom de Josué, celui qui a conduit le peuple dans la terre promise à la suite de Moïse, et dont la signification est exactement la même en ramassé, Yeshu. Jésus, ce Dieu qui sauve. Et donc il y a le sentiment dans l'Écriture que déjà il y a la compréhension d'une unique personne, un et le même, mais dit à travers deux prismes, le prisme de la divinité et le prisme de l'humanité, ce qu'on appellera plus tard les doubles natures. Et cela est très beau parce qu'on sent que Chalcédoine ou les grands conciles qui sont arrivés après n'ont rien voulu dire d'autre que l'écriture et n'ont voulu qu'approfondir ce qui était déjà là. Ce n'est pas une sorte d'invention, construction hellénique ou je ne sais pas quoi. On n'a fait qu'approfondir le donné révélé. Et pour la deuxième question, c'est une difficulté de langage dû au fait que, bien sûr, la façon dont on parlait à l'époque des Grecs des Juifs parlant le grec, plus exactement, dans cette langue que l'on a appelée pendant longtemps la koiné, eh bien, il y a des expressions qu'il faut décrypter, qui sont des hypallages. Qu'est-ce que c'est qu'un hypallage en langage rhétorique? C'est-à-dire des expressions ramassées, mais qu'il faut un peu développer pour mieux les comprendre. Quand Saint-Pierre dit au matin de la Pentecôte que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, Jésus, que vous avez crucifié, eh bien, il dit quelque chose qui est de l'ordre de la manifestation. Dieu l'a manifesté, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. La résurrection prouve, si vous voulez, que Jésus est bien le Seigneur et le Christ. On a tout à fait pareil, d'ailleurs, dans une expression de saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 4, lorsque saint Paul s'exprime, « Selon l'Esprit qui sanctifie par sa résurrection d'entre les morts, il s'agit de Jésus, a été établi comme Fils de Dieu dans sa puissance. » Établi dans sa puissance, on le trouve au numéro 445. Ce verbe « établir » comme fils de Dieu dans sa puissance, je pourrais très mal le comprendre et dire c'est seulement au moment de sa résurrection qu'il a été établi. Mais attention, là aussi, c'est une expression ramassée qui veut dire « il a été manifesté dans sa puissance comme fils de Dieu ». Avant, il l'était dans son humilité, il l'était déjà. Mais la résurrection l'a manifesté dans sa puissance. Donc l'accentuation est sur le terme « dans sa puissance ». De même, dans l'expression de Pierre de Acte 2, 36, trouvée à la fin du 440, c'est une expression sur la résurrection. La résurrection le manifeste, Seigneur et Christ. Et là, c'est « dans sa puissance ». Il est manifesté comme fils de Dieu. Donc c'est une expression beaucoup plus d'épiphanie, de manifestation, comme un roi qui est couronné, comme un roi dont un jour c'est son épiphanie. Mais pour Jésus, son épiphanie la plus solennelle, c'est bien sa résurrection d'entre les morts, c'est le centre de notre foi, et nous le disons d'ailleurs fréquemment, que si notre Seigneur n'est pas ressuscité d'entre les morts, saint Paul le dira, vaine est notre foi. Donc on retrouve toujours ce centre du kérigme, Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et ça, c'est la base des bases, c'est le kérigme initial qui permet d'expliciter toutes les expressions, tous les mots, et il faut sans cesse y revenir. On doit toucher donc en même temps l'Annonciation et la résurrection. On ne peut pas disjoindre les mystères. Les mystères sont intimement connexes, et c'est cette révélation globale que nous essayons de dire avec nos pauvres mots dans un symbole. Un symbole, qu'est-ce que c'est finalement? C'est redire en résumé ce que dit l'Écriture. Et c'est très difficile, il a fallu que vraiment il y ait le don de l'Esprit-Saint qui conduit à la vérité tout entière pour arriver à trouver des expressions unifiées, ramassées, de telle sorte que les chrétiens ne soient pas dépourvus quand on les interrogeait, quand on leur demandait des explications sur leur foi, qu'ils puissent dire en peu de mots leur conviction profonde et ce don reçu de la foi dans leur cœur.
Donc, du coup, le nom de Jésus, qui l'inscrit, tu le disais, qui l'inscrit dans une histoire, dans une famille, c'est un nom que d'autres ont porté, mais quand on nomme celui que Dieu nous a envoyé par la Vierge Marie et celui qui est né de la Vierge Marie, ça devient un programme, en quelque sorte le kérigme du kérigme presque.
Oui, oui, parce que finalement quand je décompose Yeshua, souvent que l'on appelait Yeshu dans l'abréviation, ou Yehoshua, eh bien on a la racine finale qui est le verbe sauver, Oshia, comme quand je dis Hosanna, ou quand je vis la fin de la préface, on béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et on dit Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, c'est le verbe sauver, et on le trouve ça dans le nom de Jésus. Le choix qui est final est ce Hosanna de celui qui sauve, et donc on redit d'une deuxième fois que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui sauve par l'instrumentalité de l'humanité de Jésus. Donc Dieu va réaliser sa mission à travers l'humanité de Jésus, et il va nous sauver par l'humanité de Jésus. Mmh. Donc c'est un mouvement effectivement au carré, c'est-à-dire à la fois je dis il est Emmanuel, et en même temps sa façon d'être homme va être l'œuvre de Dieu pour notre salut.
Finalement, c'est ce qu'on appelle du mot l'économie du salut est présente et donnée déjà dans ce mot-là. Il faut la développer après.
Alors, il faut la développer, mais c'est vrai, toute l'économie du salut est là. Et quand Matthieu dit qu'il sauvera son peuple de ses péchés, dès le début de l'évangile de saint Matthieu, dans le numéro 430 du catéchisme de l'Église catholique, il résume cette belle mission de Jésus, qui montre qu'il y a comme une identité entre son nom et sa mission. Comme le dit d'ailleurs très bien le même catéchisme, en renvoyant d'ailleurs au mystère de l'Annonciation. Identité profonde, il est cette deuxième personne de la Trinité envoyée pour réaliser ce salut. Et nous pouvons rendre grâce une fois de plus pour la beauté de ce qui nous est donné.